Alors, en deuxième partie, le rôle du prêtre. Ça va, je vais pas trop vite. Vous dites ainsi. Alors, le rôle du prêtre. Le premier rôle, c'est l'enseignement. Alors, là, je me réfère au livre du Deutéronome, chapitre 33. Alors, je vais aller chercher. Chapitre 33, verset 10. Et là, on retrouve une bénédiction. Alors, il y a plusieurs endroits où des patriarches bénissent les 12 tribus. On a d'abord Jacob qui va bénir chacun de ses fils et donner, une bénédiction comme un prêtre, finalement, de père pour faire pleuvoir les grâces sur son fils qu'il connaît, parce qu'il se dit, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. Et donc, il demande des grâces et il dit, toi, ta difficulté, ça va être ça. Et là, on retrouve un petit peu la même chose de la part de Moïse. Voici la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les fils d'Israël avant de mourir. Donc il transmet, c'est un testament, où la grâce, toutes les grâces que lui il a reçues, il va la répartir sur les 12 tribus. C'est une manière d'organiser la société aussi. Et c'est une manière de la part du Seigneur de dire, il y en a certains d'entre vous qui allaient avoir tel charisme et d'autres tel charisme. Voilà, la répartition dans l'Église, c'est la même chose. Et il est dit, à partir du verset 8, on s'occupe de la tribu de Lévi. Enfin, Moïse bénit la tribu de Lévi. Et dans cette bénédiction, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une bénédiction qui est spécialement longue par rapport à d'autres tribus. Il y a un rôle assez central. Et pour Lévi, il dit, « Ton Thummim et ton Ourim appartiennent à l'homme qui est fidèle. » Donc ça, c'est les objets dont disposent les prêtres pour interroger le Seigneur sur certaines choses. On en reparlera tout à l'heure. « Que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, par la querelle aux eaux de Meriba, lui qui a dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus, qui a refusé de reconnaître ses frères, qui a ignoré ses fils. » Donc là, je pense qu'il y a une référence à cet abandon de la famille, c'est-à-dire que le prêtre, c'est celui qui a fait le sacrifice de son père, de sa mère, de sa famille, est nul. Et Pierre, il dit, et nous, qu'est-ce qu'on va recevoir, quoi? Parce qu'on est dans ce cas-là, on ne voit plus notre femme, on ne peut pas avoir d'enfants, on ne voit plus nos familles, et le Seigneur lui donne des réponses en disant que sur cette terre, il y aura des frères, des sœurs, etc. Et on trouve ça déjà dans la bénédiction de Lévi. Verset 10, gardez la parole, veillez sur l'alliance, donc gardez la loi en fait. Enseignez les coutumes à Jacob, la loi à Israël. Il présente le parfum à tes narines, l'offrande totale sur ton autel. Voilà, bénis Seigneur sa vaillance, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins à ceux qui se dressent contre lui, et que ceux qui le haïssent ne se redressent plus. Voilà, on a, et ça c'est une parole qui est dite spécialement pour les gens qui sont comme la prunelle de l'œil du Seigneur, quoi. C'est les gens, les chouchous du Seigneur, parce que le Seigneur fait pleuvoir des grâces particulières par leur intermédiaire. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, une critique adressée à l'encontre d'un prêtre est quelque chose de grave dans les péchés qu'on peut commettre. Faut essayer de ne pas commettre ces péchés-là, ou que si on a été blessé, demander au Seigneur de nous aider à purifier nos blessures et à pouvoir peut-être parler avec d'autres, mais sans que ça soit de l'acrimonie qui ressorte, mais plutôt un échange pour pouvoir nous-mêmes guérir, quoi, pour pouvoir comprendre mieux le prêtre ou critiquer le roi, critiquer notre chef, critiquer le prêtre, c'est des choses en touche à la prunelle de l'œil du Seigneur, donc faut pas jouer avec ça. Critiquer un juif aussi, les péchés d'antisémitisme, c'est très grave. Il y a plein de familles qui ont plein de problèmes de maladies, de malédictions à cause de ça. Donc, je reviens au rôle du prêtre. Le premier rôle, c'est l'enseignement, c'est ce qui est dit. Enfin, garder la parole, forcément, mais c'est et enseigner. C'est cité en premier. Distinguer le sacré du profane, faire connaître le pur et l'impur. Ça, c'est Ézéchiel qui dit ça. Deuxième rôle, c'est pas forcément dans l'ordre, offrir des sacrifices matin et soir. Donc ils offrent de l'encens, ils présentent le parfum aux narines du Seigneur, ils présentent l'offrande totale sur son autel. Le prêtre, c'est celui qui va dire « Seigneur, je t'offre ça. Seigneur, je t'offre ça. Agrée-le, s'il te plaît. Je t'offre ça pour un tel qui en a besoin. » Et on a par excellence le grand prêtre qui préside à l'expiation. C'est-à-dire que le grand prêtre, ça correspond à notre pape aujourd'hui, c'est celui qui reçoit une dose de grâce particulière pour fédérer les prêtres. Et c'est Aaron, c'est Sadoc, c'est Moïse. Enfin, Moïse jouait un petit peu ce rôle-là aussi. Et donc, une fois par an, il va demander le pardon des péchés pour le peuple. Et je dirais que c'est une des choses principales qui retient la main du Seigneur. Vous avez dû lire peut-être dans une des épîtres de Paul, aux Thessaloniciens, je crois, qu'il est dit qu'on parle de ce qui retient l'Antéchrist. Vous savez, il y a encore quelque chose qui le retient. Et moi, c'est mon avis, dès lors que le pape est encore là, et ben en fait, il a un rôle de défense de l'Église, quoi. Hein, parce qu'il va demander, dire Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, ils sont pécheurs, Seigneur. Et en fait, il est vraiment là pour parler et dire au Seigneur, bon bah maintenant tu m'écoutes et je te fais confiance, et ça retient la main du Seigneur sur le monde qui ne mérite plus de vivre tellement il y a de péchés, de corruption, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que les papes ont besoin de nos prières. Donc ça c'était les sacrifices. Troisième rôle, il a soin de la lumière, de la menorah, du chandelier, de la loi. On parlait de laisser brûler sur l'autel le feu du Seigneur et de maintenir ce feu allumé. Et donc de toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de feu étranger, que ce qui éclaire le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance ou l'Église dans la Nouvelle Alliance, ce soit des choses saines, des dogmes, des choses belles qui éclairent, qui élèvent, voilà. Ça c'est le rôle du prêtre. On voit notamment que Moïse dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, « Quand vous serez sur le point d'engager le combat, donc en temps de guerre, le prêtre s'avancera et s'adressera aux armées. Écoutez Israël, vous allez combattre vos ennemis, ne craignez point, parce que le Seigneur est au milieu de vous, il combattra pour vous et vous garantira du danger. » C'est beau parce que il y a une parole qui est donnée, en lieu et place du Seigneur, parce que le prêtre, il dit, mon rôle, c'est de bénir en lieu et place du Seigneur, je suis la bouche par laquelle passe le Seigneur pour fortifier l'Église dans tel combat qui a mené. Voilà, c'est le rôle du prêtre, des prêtres, d'avoir cette parole forte. Et dans l'Ancien Testament, c'était figuré par la menorah, c'est-à-dire ce chandelier à sept branches qu'on maintenait allumé, en fait. Et voilà, il y a des moments dans l'année où on l'éteignait, enfin, à Hanouka, enfin, il y avait des fêtes particulières, mais voilà, rôle de la lumière. Et donc dans la lumière, il y a aussi la loi, forcément, parce que c'est la loi, c'est-à-dire la manière juste d'interpréter la parole de Dieu. Donc éclairer les autres, c'est aussi donner un juste éclairage, et surtout aujourd'hui on le voit, c'est dur d'avoir un éclairage, d'être sur le lampadaire, parce que on n'ose pas trop briller, et puis il y a plein d'autres lumières que celle de l'Église qui brille aujourd'hui. On banalise beaucoup la religion catholique notamment. Donc veiller sur la loi, ça c'est un des rôles clés des prêtres. Et on a vu que petit à petit, avant l'époque de Jésus, le rôle de prêtre s'est partagé entre les pharisiens qui n'étaient pas forcément prêtres et se sont mis à fonder des synagogues un peu partout pour enseigner aussi, voyez. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu comparable à ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a eu le rôle de prêtre a été réparti plus que sur les épaules des simples prêtres, en fait. Voilà, parce que la grâce circule et la grâce est condensée à la fois sur les prêtres et sur ceux qui veulent bien suivre le Seigneur, recevoir les grâces, et notamment dans les derniers temps. Et on était dans les derniers temps avant l'avènement de Jésus, à l'époque des pharisiens, des écoles pharisiennes, qui étaient d'abord en fait des gens qui souhaitait démocratiser la foi, en fait, faire en sorte que n'importe qui puisse prier, puisse lire la parole de Dieu, voilà, ça c'était les rôles des pharisiens. Et aujourd'hui, on sent qu'on revient à ça, puisque nous les laïcs, on reçoit beaucoup de grâce. Voilà. Moi je suis là devant vous, alors que je ne pensais pas qu'un jour je pourrais faire ça, vous voyez. Il y a des grâces qui sont données, et des grâces de prêtre, quoi. Quatrième rôle, qu'on peut citer, la bénédiction. Il y a cette formidable parole de Nombre 6, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine, etc., etc. Donc nous on lit ça le 1er janvier. Donc c'est bien, ça illumine l'année, c'est la bénédiction. Donc cette parole, elle est constituée de 3 versets de 15 mots. Dans l'Ancien Testament, les prêtres prononçaient cette bénédiction à main levée, matin et soir, après l'offrande, en haut de l'estrade. Donc on imagine le petit bonhomme là avec son aube et qui fait la bénédiction de Nombre 6 au peuple, et les fidèles répondaient Amen. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de discontinuité avec ce qu'il y a aujourd'hui à la messe. Que le Seigneur vous bénisse, et nous on répond Amen. Et il est en haut d'une estrade aussi, et il fait ça. On utilise aussi cette bénédiction pour les époux lors du mariage dans l'Ancien Testament. J'ai pas fait attention si c'était encore le cas dans le sacrement du mariage d'aujourd'hui. Enfin, je pense que oui, parce que souvent c'est une messe. Donc. Cinquième rôle, le prêtre est l'homme du sanctuaire. Donc c'est celui qui entretient une relation à Dieu étroite par sa prière et par son contact avec les lois internes du peuple de Dieu, donc les lois d'Israël et les lois de l'Église pour nous maintenant. Donc c'est celui qui va bouquiner en lisant ce que dit le pape ou ce que disent les rabbins dans l'Ancienne Alliance. Voilà, il y a une unité forte avec le peuple de Dieu du moment donné. Il accueille les gens dans le sanctuaire, il préside aux liturgies, il est chargé des consécrations royales. Voilà, les rois, enfin, à l'époque royale en tout cas, c'était ça. C'est le prêtre qui bénissait. Voilà, l'homme du sanctuaire, donc c'est celui qui va tenir la boutique et qui va faire le lien avec ceux qui sont moins familiers parce qu'ils poussent rarement la porte du sanctuaire. Donc forcément, des grenouilles de bénitiers comme vous tous qui allez à l'adoration eucharistique au moins une fois ou deux par semaine, bah vous êtes un petit peu des prêtres, moi avec, parce que en fréquentant le sanctuaire, on en devient familier et donc on a cette capacité de présenter le sanctuaire à d'autres, voilà, de leur expliquer que la messe, bah non, c'est pas triste. On bat des mains à la messe, vous savez pas, on ne voit pas passer le temps. Il y a encore des prêtres super sympas, super dynamiques, super jeunes. Voilà, l'homme du sanctuaire, je trouve que c'est beau parce que il n'y a pas forcément besoin d'être enfermé jour et nuit dans le sanctuaire pour comprendre ce que ça veut dire. Rien que d'y aller régulièrement, c'est déjà être un homme ou une femme du sanctuaire. Sixième rôle du prêtre, les purifications. Purifier le peuple. Déjà, dans le livre du Lévitique, chapitre 12, 13, 14, on parle de purifier un certain nombre de cas. On parle de la lèpre principalement, et puis d'autres cas qui provoquent l'impureté. Voilà. Donc en fait, le prêtre, il va recevoir du Seigneur la capacité de savoir d'où viennent les lèpres. Pour nous, ça va être, notamment dans le sacrement de réconciliation, il va avoir des grâces particulières pour nous aider à dénicher le péché à cause duquel on fait tous les autres. Vous voyez, la lèpre, ça désigne une lèpre physique, mais c'est d'abord la lèpre de l'âme. Quoi, hein, c'est, voilà. Il y a des mystiques qui ont vu, ou des saints qui ont vu l'état de l'âme de quelqu'un qui, par exemple, qui est envieux et qui avait une âme avec des yeux énormes, très moches, vous voyez. C'est parce que quand on voit l'état de notre âme, c'est l'interprétation spirituelle de ce qui est décrit dans l'Ancien Testament quand on parle des gens qui sont morts ou des gens qui sont lépreux ou des gens, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une déficience d'une partie de l'âme qui est comme une lèpre. Et Myriam qui critique le grand prêtre, un des prêtres, on va dire Moïse, eh bien elle se retrouve lépreuse parce que c'est comme si son âme avait été contaminée par la médisance et la jalousie. Et ce qui lui arrive physiquement est en réalité la partie émergée de l'iceberg qui est que son âme est devenue lépreuse. Et un certain nombre de guérisons aujourd'hui sont obtenues parce que quand on discerne d'où vient le mal spirituel et qu'on s'attaque à ce mal spirituel-là, et bien en réalité, le Seigneur va régulièrement donner des grâces de guérir aussi le corps parce que on est corps, âme, esprit reliés. Et, voilà. Les purifications. Donc là, je les énumère, mais on y reviendra la prochaine fois en voyant en quoi nous, on peut avoir une action sur chacun de ces domaines, en fait. Mais je pense qu'il faut le méditer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, en fait. Hein. Autre domaine dans lequel les prêtres exercent, c'est qu'ils sont des oracles, c'est-à-dire que les gens viennent les consulter pour connaître la vie de Dieu. Les prêtres avaient l'éphod, l'ourim et le toumim, je vous disais, qui étaient des objets de culte. Les prêtres présentaient l'un ou l'autre et c'était des choses qui permettaient d'expliciter aux personnes qui venaient les consulter ce que le Seigneur leur répondait dans un cas pratique. Voilà, pour nous, ça va être la parole de Dieu régulièrement qu'on va recevoir dans un groupe de prière et puis ça va être comme les ourim et les toumim et l'éphod qui vont... Voilà, Dieu va nous répondre et puis certains vont discerner. Ourim et Toumim, ça veut dire vérité et lumière. Toumim, vérité, Ourim, lumière. En hébreu, ça veut dire ça. Donc on peut identifier ça à, par exemple, la parole de Dieu, ça c'est la vérité, et celui qui interprète la parole de Dieu, la lumière. Oui. Je donne un exemple, mais il y en a plein. Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, mais la tentation, ça va être, je te demande quelque chose, Seigneur, parce que moi, j'ai pas la foi, et tant que tu ne fais pas ça, je ne croirai pas. Ça, c'est tenter le Seigneur. Alors que demander, Seigneur, réponds-moi s'il te plaît là-dessus, parce que je suis perdu, parce que je voudrais croître en sainteté, parce que, etc., c'est consulter le Seigneur de la bonne manière, et ça, cette grâce d'être un oracle pour les autres, c'est une grâce liée au rôle de prêtre, en fait. Et au rôle de prêtre comme baptisé aussi. On voit moins ces objets à partir de David, parce qu'à partir de David, Dieu va susciter des prophètes qui vont aussi jouer ce rôle-là. Et on ne parle plus de ces objets particuliers qui servent pour consulter. Mais il n'est pas dit qu'ils ne le faisaient plus. Alors, autre rôle, ils sont juges. Voilà, ils ont un rôle judiciaire. Dans les cas d'adultère, par exemple, enfin, on vient les voir pour départager les combattants sur un sujet donné. Donc c'est bien pour ça que faut-il lapider la femme qui a commis l'adultère. Bon. C'était un cas typique de traitement par un prêtre qui se retrouvait face à... voilà. Autre rôle, gardien de l'arche. Parce qu'il y avait l'arche d'alliance avec la présence réelle dedans. Les prêtres, c'est même eux qui transportaient l'arche durant les guerres. Là aussi, hein, on voit, il y a deux manières de faire. Soit on le fait de manière... superstitieuse en disant on va mettre l'arche au milieu de l'armée ennemie et puis le Seigneur va nous faire gagner la guerre, et ça c'est ce qu'ils font à un moment les Hébreux, et ils se font piquer l'arche par les Philistins. Ils ont tellement de fléaux les autres là qu'ils disent non, ils mettent ça sur il y a des bœufs qui ramènent l'arche tout seul, ils disent on veut plus, c'est pas pour nous quoi. L'arche normalement c'est le lieu de la présence réelle, un lieu de présence réelle qui doit être connecté à la prière, à la foi, voilà, on peut l'emmener avec nous si on entreprend un projet, parce que c'est pas des guerres aujourd'hui, c'est des projets. C'est en lien avec la prière, donc voilà. Donc je pense, je sais pas, au Saint-Sacrement, je pense à... Évidemment, on laisse pas le Saint-Sacrement tout seul dans la rue en disant c'est bon, il va convertir, il va faire en sorte qu'il n'y ait plus de prostituées dans la rue, qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il n'y ait plus de gens qui insultent les autres dans la rue. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on peut faire une procession ensemble avec le Saint-Sacrement, avec Jésus qui est au milieu de nous. Voilà, ça c'est possible. Autre rôle, les rôles subsidiaires. Et donc c'est là que c'est le mot lévite en fait qui a plusieurs significations. Lévite, ça veut dire soit descendant de la tribu de Lévi, soit ça veut dire ceux qui sont servants comme acolytes des prêtres, voyez. C'est-à-dire que parmi les lévites, en réalité, il y a ceux qui descendent d'Aaron, et eux, alors ils vont être de sang royal, si vous voulez, enfin de sang sacerdotal. Donc c'est eux qui vont être les prêtres. Alors que dans la tribu de Lévi, certains ne descendent pas d'Aaron, et eux, ils vont plutôt être les petites mains des prêtres. Ils vont prendre soin des parvis du temple, ils vont purifier les choses saintes, ils préparent les offrandes, les victimes, etc. Voilà, il est dit pas mal de choses dessus, notamment dans le premier livre des Chroniques, chapitre 24. Donc ça va être, pour nous, ça va être les diacres, ça va être nous-mêmes, on va être plutôt lévites que prêtres, finalement, si on regarde à deux fois. Enfin, on va être prêtres aussi, mais... Voilà, donc le mot lévite, soit descendant de Lévi, soit servant, acolyte du prêtre. Mais il faut savoir que les prêtres, avant tout... dans l'ancienne alliance, étaient de la tribu de Lévi. Donc ils étaient à la fois lévites et prêtres. Donc pour conclure cette partie sur les rôles des prêtres, le prêtre, c'est l'homme qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Donc ça va être le peuple d'Israël qui va avoir ce rôle aussi d'être la lumière des nations pour que le salut de Dieu parvienne aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les prêtres qui sont le lien entre l'Église et Dieu, même si nous, Dieu passe aussi directement par nous, enfin, nous touche directement, mais les prêtres vont condenser la grâce d'une manière particulière, et le peuple de Dieu, donc l'Église, va jouer un rôle de prêtre pour les hommes de ce temps, et les femmes de ce temps. L'évêque va être le gardien de l'Église, hein, et les prêtres vont fonctionner normalement de manière collégiale avec l'évêque et avec les autres prêtres. Et un des signes de ça, c'est que quand l'évêque a imposé les mains pour le sacrement de l'ordre, les autres prêtres aussi imposent les mains. Vous voyez, il y a une famille en fait qui vient et qui dit bienvenue chez nous et on te donne tous toute la puissance du Seigneur par nos mains, quoi. Il y a quelque chose de très beau. Et on retrouve, hein, c'est ce qui est dit dans les textes de l'Église, hein, le prêtre, il a le ministère de la parole, des sacrements et de l'unité pour guider le troupeau vers le Père. Voilà, on retient trois choses. Parole, sacrement et unité. Mais dans les faits, il y a beaucoup plus de choses que ça, c'est ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, mais ça demande de beaucoup creuser dans la Bible, parce qu'il est dit beaucoup de choses sur les prêtres, Et dans les faits, je suis persuadé que si on lisait les textes officiels de l'Église sur les prêtres, on retrouverait ces différentes parties, en fait, exprimées différemment avec les mots d'aujourd'hui. Voilà. Ça, justement, je le ferai la prochaine fois.